Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Vous avez bien raison. Quelle chance vous avez d'écouter cette émission d'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM. Et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Je m'appelle Jean-Noël, je suis content de vous retrouver ce samedi 26 septembre pour faire le point sur l'actualité scientifique. Aujourd'hui, journée mondiale de la contraception. On est dans un exercice de sensibilisation et d'éducation, bien sûr. Et l'éphéméride est assez intéressant. En 1905, Albert Einstein publie sa théorie de la relativité restreinte. C'était en 1905 et il y a 4 ans, la NASA confirme l'émission possible de panache d'eau à la surface d'Europe, qui est un satellite naturel de Jupiter. Au niveau des naissances, celui en 1774 de John Chapman, plus connu sous le nom de Johnny Appleseed, c'est-à-dire Johnny Pépin de Pomme, c'était un botaniste, un pépiniériste américain. Il est devenu une légende de son vivant et a été souvent évoqué dans l'art et la littérature. Il est considéré comme un des premiers écologistes. John Chapman, né le 26 septembre 1774. Au niveau des décès, celui d'Archibald Vivian Hill en 1977, il était un physiologiste britannique. Il a été coloréat du prix Nobel de physiologie, de prix Nobel de médecine avec Otto Meyerhoff pour ses découvertes relatives à la production de chaleur dans le muscle. C'était en 1922. Voilà l'éphéméride, assez intéressant, même si les noms ne sont pas totalement ensuite arrivés à une postérité et une renommée internationale. Il n'empêche que, voilà, on a John Chapman. Si, ça dit peut-être quelque chose, finalement. Johnny Appleseed. C'est l'éphéméride de ce 26 septembre. Pas mal de choses dans l'actualité scientifique et technologique que nous allons évoquer dans cette émission. Alors, je n'ose plus maintenant faire de sommaire, parce qu'à chaque fois, je me fais piéger par le temps, si bien que j'ai jamais le temps de pouvoir évoquer l'ensemble des articles que l'on évoque. Je voulais revenir quand même sur les cigarettes électroniques, parce que c'est apparu il y a quelques années, 4-5 ans, je ne sais plus, et à l'époque, on me posait la question, mais est-ce que l'on sait si c'est nocif ou pas? Et je répondais à l'époque, on n'en sait rien, c'est beaucoup trop tôt. Eh bien, on commence à avoir un petit peu des études qui, maintenant, ont pris un peu le recul nécessaire et qui commencent à nous donner des informations pas toujours rassurante. Il y a un an, au cœur d'un rapport consacré à la lutte contre le tabagisme, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qualifiait la cigarette électronique d'incontestablement nocive. Ce sont les propres termes de ce rapport. Et mettant en avant des risques d'irritation des voies respiratoires, de la gorge, des yeux ou encore le risque d'effets cardiovasculaires. En avançant même que la cigarette électronique ne devait pas être promue comme une aide au sevrage, disait l'OMS, une position tranchée qui avait soulevé un tollé quasi général. C'était il y a un an. En début d'année, janvier précisément, l'OMS a encore un peu plus enfoncé le clou en avançant qu'il n'y a aucun doute que les cigarettes électroniques sont dangereuses pour la santé et les études sur la nocivité potentielle du vapotage se sont multipliées. Il y a plusieurs études qui suggèrent que l'usage de la cigarette électronique n'est pas sans risque. Des chercheurs de l'université Duke aux États-Unis affirment même aujourd'hui que des niveaux élevés de composés toxiques se forment lorsque les fabricants de ces cigarettes mélangent des arômes et des solvants et lorsque ces liquides sont stockés. Alors pour en arriver à ces conclusions, les chercheurs ont analysé les cellules qui tapissent les bronches. D'abord, lorsqu'elles sont exposées à des produits aromatisants comme la vanilline, le benzaldéhyde, qui donne un petit peu ce goût, ce parfum de fruits, ou également le cinnamaldéhyde qui donne ce parfum de cannelle. Et puis, on a aussi étudié quand ces cellules sont exposées aux composés qui se forment après un mélange avec des solvants, par exemple le propylène glycol ou la glycérine végétale. Et résultat, eh bien les nouveaux composés qui se forment donc sont plus toxiques que les ingrédients de départ. Et c'est ça qui est assez effrayant, en tout cas c'est ce que révèle cette étude. Les chercheurs montrent que ces nouveaux composés sont responsables de réponses inflammatoires pouvant mener à une augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, mais aussi à des toux et à des difficultés respiratoires. Elles montrent même que de faibles concentrations de ces produits peuvent suffire à provoquer la mort des cellules pulmonaires en endommageant leur métabolisme. Alors, ces résultats suggèrent donc que les cigarettes électroniques libèrent des mélanges chimiques instables contenant une grande variété de produits chimiques aux propriétés toxicologiques inattendues. Les chercheurs appellent donc au lancement d'études scientifiques qui permettraient d'évaluer réellement les niveaux de toxicité. Alors, Jorgen Vevsto, qui est membre du conseil d'administration de la Société européenne des maladies respiratoires, s'est exprimé à l'occasion d'un congrès qui a eu lieu récemment. Il explique « Ces travaux montrent que le liquide pour les cigarettes électroniques a été mis à la disposition des consommateurs sans une compréhension et des tests de sécurité adéquats. Il souligne le fait que les cigarettes électroniques ne peuvent pas être considérées comme une alternative sûre aux cigarettes, au tabac, dit-il. Et donc, il appelle les régulateurs à prendre les mesures nécessaires pour réduire les risques autant que possible, dit-il. Donc, encore une étude qui confirme la possible toxicité de ces cigarettes électroniques. Et là, ce qu'on apprend, c'est que, en fait, au départ, on s'était dit que les produits que l'on avait au départ n'étaient pas nécessairement nocifs. Et cette étude montre que le résultat du mélange et de la combustion de ces différents liquides qu'on utilise forment, eux, des produits toxiques. Et voilà, il y a quand même plusieurs études qui confirment cela. C'est une tendance générale. Je n'ai pas, à ma connaissance, vraiment vu d'articles ayant une conclusion inverse. Donc, c'est vraiment, faut faire attention. Enfin, faut pas se leurrer aussi quelque part. Ce n'est pas anodin d'inhaler des produits qui ne sont pas, j'allais dire, naturels au départ et dont les mélanges peuvent s'avérer un peu hasardeux. Voilà, donc faites attention, bien évidemment, pour votre santé, bien sûr, parce qu'on avait un peu l'impression que les cigarettes électroniques, c'était totalement inoffensif. Ça semble pas trop être le cas, apparemment. Voilà, je vous ai bien plombé l'ambiance pour ce début d'émission. Je suis désolé, mais enfin, après tout, c'est aussi le but de cette émission, c'est de s'informer sur l'actualité scientifique et en l'occurrence ici médicale. On va continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique juste après ce titre de Cannibal sur l'antenne de Graphite.
Down.
Siren's Call de Cannibal sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. On parle de l'actualité scientifique au sens large, là en l'occurrence d'actualité médicale. Et on va continuer avec les infections de système respiratoire supérieur, qui est un motif de visite chez les médecins généralistes très fréquent. Il y a eu un rapport de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques qui date de 2002, c'est un peu ancien, mais qui avait expliqué que environ près de 5% des patients qui consultaient pour une rhinopharyngite ou 3% pour une toux, on se rendait compte que finalement c'était une somme assez importante, pardon, parmi tous les patients qui consultaient des médecins généralistes. Et dans la plupart des cas, on prescrivait des antibiotiques, ce qui était inefficace contre ces maladies parce qu'elles sont majoritairement d'origine virale. Donc du coup, pour atténuer les symptômes, le médecin pouvait quand même prescrire des médicaments, et notamment des antitussifs, pour éviter d'avoir cette toux. Il y a eu depuis, donc c'est très récent maintenant, ce qu'on appelle une méta-analyse publiée dans The British Medical Journal. Une méta-analyse, c'est de faire l'analyse de plusieurs découvertes scientifiques, de plusieurs articles scientifiques, et d'essayer de trouver justement des points communs et d'en tirer des conclusions un petit peu plus générales. Et cette étude explique que le miel constituerait, dans certains cas, une alternative acceptable aux médicaments classiques. Il serait notamment efficace pour réduire la fréquence et l'intensité de la toux. Alors, on le sait, le miel est utilisé pour soigner, mais alors depuis l'Antiquité, la pharmacopée de l'Égypte antique faisait référence déjà pour plusieurs remèdes, et le plus souvent, il est utilisé pour soigner une irritation de la gorge ou pour favoriser la cicatrisation d'une plaie. Les scientifiques qui sont à l'origine de cette méta-analyse travaillent à l'université de médecine d'Oxford, et ils n'ont pas examiné donc des patients, mais ils ont regroupé un total de 14 études cliniques réalisées auparavant et qui ont testé l'efficacité du miel par rapport à des médicaments ou par rapport à un placebo, et qui sont habituellement prescrits pour une infection du système respiratoire supérieur. Et donc les études sélectionnées sont soit des études cliniques, soit des études d'observation menées in vivo. Et y a-t-il des cas dans lesquels le miel est plus efficace qu'un médicament traditionnel? Et c'est ce qu'ils ont voulu savoir. Pour commencer, seules deux études sur 14 se sont penchées sur ce sujet. Les résultats ne sont pas concluants dans les deux études. Il n'y a aucun effet significatif du miel par rapport au placebo. Donc il est difficile de conclure que si on se met à travailler uniquement sur ces deux études. Les auteurs indiquent que d'autres études cliniques sur l'effet placebo du miel sont nécessaires, donc c'est un petit peu juste. Et on a été un petit peu plus loin pour savoir si le miel était plus efficace que des molécules prescrites habituellement pour les infections du système respiratoire. Et cette méta-analyse s'intéresse à deux molécules, le dextrométhorphane et la diphenhydramine. Alors, le premier, c'est une molécule utilisée dans des sirops contre la toux. Il y a eu deux études qui ont étudié les effets de la fréquence de la toux et son intensité d'un sirop avec cette molécule, et puis également les effets du miel. Il apparaît que le miel n'a aucun effet bénéfique significatif sur la fréquence et l'intensité de la toux par rapport au sirop qui contient cette molécule de dextrométhorphane. Deuxième molécule, qui est un principe actif utilisé dans des médicaments contre le rhume. Il y a eu 4 études réalisées qui se sont intéressées à la fréquence de la toux. Et donc, dans ce cas-là, dans le cas de la fréquence de la toux, le miel se révèle plus efficace pour réduire la fréquence des quintes de toux par rapport à la molécule pharmaceutique. La plupart des études considérées ici concernent, il faut le noter, les jeunes et les enfants. Néanmoins, les chercheurs ont tout de même inclus des études menées sur des adultes et on se rend compte qu'en fait, ça fonctionne plus. Enfin, on a plus de différences et on constate plus un effet bénéfique et efficace du miel pour traiter les infections respiratoires chez les enfants et les jeunes par rapport aux adultes. C'est moins significatif au niveau des adultes. On ne sait pas pourquoi, on n'a pas la raison de cela, mais on se dit que ça pourrait être intéressant dans le cas des adultes de plutôt prescrire du miel que de prescrire certains sirops ou médicaments. Cela pourrait être une alternative raisonnable à certaines molécules pharmaceutiques, notamment pour réduire donc la fréquence de la toux et son intensité chez les enfants. Le miel, en fait, on a l'impression, enfin, on se rend compte qu'il est quand même bien toléré par la majorité des gens. Il y a très peu d'effets secondaires qui ont été décrits, hormis des nausées très légères. Et ce qui est intéressant aussi dans le cadre du miel, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme de résistance chez les micro-organismes qui peuvent le faire par rapport à des traitements médicamenteux mal suivis, mal prescrits. Donc voilà, ça pourrait être intéressant et c'est une piste qui va être suivie pour les enfants et les jeunes adultes. Pour les adultes un petit peu plus vieux, on ne se rend pas compte on n'a pas de preuve des effets bénéfiques du miel apparemment. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui a été... On fait des études sur à peu près tout et ça peut être intéressant parce qu'on se dit finalement, c'est peut-être intéressant de prendre des méthodes naturelles par rapport à des méthodes pharmaceutiques. Mais que voulez-vous derrière ? Il y a aussi peut-être, je ne sais pas, peut-être une raison de... côté mercantile peut-être derrière, allez savoir. Autre sujet, ce nouveau rapport publié par WWF et la Société zoologique de Londres, qui fait état d'un constat inquiétant pour la biodiversité. En moins de 50 ans, on s'est rendu compte que la population globale d'animaux sauvages, aurait connu un déclin de près de 70%. Dans certaines régions tropicales d'Amérique du Sud, on a même enregistré une chute allant jusqu'à 94%. Le recensement des espèces offre un indicateur de choix pour mieux cerner la santé des écosystèmes. Or, avec l'explosion du commerce international, de la consommation, de la population humaine, les écosystèmes, comme les espèces, se trouvent actuellement dans le rouge. Le rapport souligne, je cite, « Les tigres, les pandas et les ours polaires sont des figures bien connues dans l'histoire du déclin de la biodiversité, mais qu'en est-il des millions de créatures minuscules ou encore inconnus qui sont aussi menacés. Qu'arrive-t-il à la vie sous nos pieds ou à la diversité des plantes et des insectes ? Tous jouent un rôle de soutien fondamental pour la vie sur Terre et eux aussi sont sous pression. » Alors, pour préserver la biodiversité, c'est un choix qui n'est pas négociable. D'après le WWF, ce n'est que grâce à cela que nous pourrons préserver notre santé, notre richesse et notre sécurité. Alors, en parallèle du rapport, il y a une étude des solutions à apporter qui a été rédigée par plus de 40 institutions et ONG. Et les résultats, c'est que la biodiversité terrestre décroît rapidement à cause de pressions humaines, principalement à travers la réduction et la destruction des habitats naturels transformés en terres agricoles et forestières. C'est ce qu'on lit dans cet article qui a été publié dans la revue Nature. Les efforts de conservation n'ont pas mis un frein à ces tendances. La demande de terres pour la production de nourriture pour les hommes et le bétail et aussi d'énergie, eh bien, tout ça augmente, ça met en danger les myriades de petits systèmes, écosystèmes dont nous dépendons. Les résultats en fait, de ces études montrent que les hommes sont plus dangereux que le réchauffement climatique en ce qui concerne l'extinction des espèces. C'est un véritable constat alarmant parce que près des deux tiers de la faune sauvage auraient disparu depuis les années 1970. Et il y a quelques solutions que l'on connaît. Enfin, je veux dire, il ne faut pas non plus se voiler la face, qui va être de préserver justement cet environnement. La difficulté, c'est qu'on est face à une terre qui voit sa population augmenter de façon exponentielle, une population qu'il faut nourrir, qu'il faut loger, qui a des besoins énergétiques, et donc on est dans une espèce de spirale qui n'est pas simple. Donc il y a une alerte avec ce nouveau rapport, mais en tout cas, on est là encore toujours dans des constats alarmants, mais dans des solutions qui paraissent difficilement réalisables, ou en tout cas difficiles à mettre en application, bien sûr. On suivra ça. C'est encore très souvent des articles que l'on évoque sur la biodiversité, le réchauffement climatique. De plus en plus d'articles qui donnent des preuves et des illustrations de ce qui est en train de se passer, mais il va falloir trouver maintenant de véritables solutions et d'alternatives qu'on ne voit pas encore précisément pour l'instant à grande échelle. À se faire, à suivre donc. Allez, on écoute un titre pour essayer de se remettre de tout ça et puis on va essayer de trouver des informations peut-être un petit peu plus réjouissantes et ensoleillées.
Us warm, waiting for the wind to get calm. The only light comes from the burning tobacco. The bottle is empty, and I can only see its shadow. Now by the silence, the wind is
Elias Driss sur l'antenne de Graphite avec Tempest. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Alors j'ai essayé de trouver pendant ce titre deux informations un petit peu plus légères et la première va concerner les mouches. Donc ça va être un petit peu plus digeste, on va dire. Il existe de nombreux types d'illusions de mouvement, mais à ce jour, les neuroscientifiques disposent de peu d'informations pour expliquer ce qui se passe au niveau du cerveau pour avoir le fonctionnement de ces distorsions de la perception. Chez les singes et chez les humains, les expériences ont montré que le cerveau est plus particulièrement une zone du cerveau qu'on appelle les aires temporales médianes supérieures. Bon, ça a été une zone assez particulière. Et on s'est rendu compte que ces zones réagissent à une espèce de catégorie d'illusion optique, comme si elle était face à un mouvement réel. Vous savez, des fois, on regarde une espèce de spirale et on se rend compte qu'elle tourne, alors qu'on est quand même face à un dessin fixe. Et l'étude de ces illusions donne naissance à la théorie de la Gestalt, qui étudie la manière dont notre cerveau perçoit et complète les formes. Cette théorie date de 1912, donc elle a quand même plus de 100 ans. Et du coup, on s'est intéressé au cerveau des mouches en se disant que c'était un terrain de recherche idéal pour les chercheurs qui souhaitaient étudier en détail un peu le voyage de l'information visuelle. Il y a deux chercheuses d'ailleurs, Margarida Agrochao et Ryosuke Tanaka, qui sont membres de l'université de Yale aux États-Unis, qui ont donc choisi de présenter des illusions d'optique à des mouches, et ils ont fait une découverte assez étonnante parce qu'on s'est rendu compte que les mouches se tournent dans la direction correspondant au mouvement perçu par les humains. Si on se rendait compte que la spirale tournait dans le sens des aiguilles d'une montre, par exemple, eh bien, on s'est rendu compte que face à ces illusions optiques, les mouches tournaient également dans le sens des aiguilles du monde. Et ces chercheurs se sont dit, on était quand même assez surpris et excités de découvrir que les mouches perçoivent du mouvement dans des images statiques et qu'elles réagissent un peu comme nous. Et durant leur expérience, les chercheurs ont étudié plusieurs types de neurones spécifiquement dédiés à la détection du mouvement pour essayer de découvrir à peu près le même phénomène que chez les primates. Le mouvement illusoire était perçu comme réel. L'étape suivante a donc consisté à désactiver et ensuite activer de façon sélective certains de ces neurones pour essayer de perturber la perception chez les mouches. Et c'est en désactivant deux types de neurones particuliers que les chercheurs sont parvenus à faire entièrement disparaître l'illusion de mouvement, donc si bien que du coup la mouche avait l'impression de se trouver face à une image statique, donc elle ne bougeait plus quelque part. Et la désactivation d'un seul de ces neurones amenait les mouches à percevoir le mouvement en miroir. C'était quand même assez étonnant. Il est intéressant de noter que les cerveaux humains possèdent les mêmes ingrédients mécaniques que notre modèle chez les mouches. On explique les illusions d'optique grâce au cerveau des mouches. Voilà la conclusion de cette étude. Je vous ai dit que c'était quand même un peu plus léger, hein, quand même. Et on s'est rendu compte, enfin, en tout cas, les chercheurs qui ont fait paraître leur étude dans la revue Proceedings of the National Academy of Science, donc quand même une revue quand même assez sérieuse, hein, c'est quand même pas Pif Gadget. Ces chercheurs ont mené une étude similaire chez des personnes volontaires pour révéler que quand nous avons adapté ce modèle aux observateurs humains pour des bords clairs et sombres en mouvement, nous avons également été capables de manipuler l'ampleur et la direction de leur perception, ce qui suggère donc que des mécanismes similaires à ceux de la mouche sous-tendent cette illusion chez les humains. On a essayé de faire une corrélation, on s'est rendu compte apparemment que c'est à peu près la même chose. Alors, bien entendu, la vision humaine elle est différente que celle des mouches sur plusieurs plans, mais néanmoins, il semble que ces mécanismes identiques qui sont possiblement partagés par un lointain ancêtre commun continuent de perdurer à la fois chez les mouches et à la fois chez nous. Le dernier ancêtre commun des mouches et des humains vivait il y a un demi-milliard d'années, mais ces deux espèces ont évolué avec des stratégies similaires pour percevoir le mouvement. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'expliquent ces chercheurs. Comprendre ces stratégies partagées peut nous aider à mieux appréhender le système visuel humain. Donc voilà, c'est toujours ça qui est intéressant dans ce genre d'études. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un peu léger, parce qu'on se dit, ok, on travaille sur des mouches et on se rend compte qu'il y a la réaction face aux illusions d'optique qui sont similaires. Mais derrière, ça permet justement de mieux comprendre le fonctionnement chez l'humain quand on arrive à le comprendre chez les mouches. Voilà, ça c'était la première information un peu plus légère pour cette émission. La deuxième, va parler des lames de rasoir, où on considère qu'une lame de rasoir a une espérance de vie d'environ 5 rasages. Alors ça peut sembler un peu court, étant donné que la lame qui est en acier et en carbone est quand même considérée comme étant 50 fois plus dure que le poil qu'elle est censée couper. Et ce grand mystère vient d'être élucidé, pas n'importe qui, par des ingénieurs du MIT, le fameux Institut de technologie du Massachusetts. Précisément par un étudiant au laboratoire de métallurgie, il s'appelle Gianluca Roscioli. Il n'a pas hésité à payer de sa personne pour mener l'expérience. Il s'est procuré plusieurs lames de rasoir de différentes marques, puis les a utilisées quotidiennement pour se raser. Il observait tous les 3 jours l'usure de la lame au microscope. Et contrairement à ce qui était attendu, on s'est rendu compte que la lame, elle ne s'émousse pas en devenant plus arrondie, par exemple, ou parce que le matériau s'érode. En fait, le principal phénomène à l'œuvre, c'est l'apparition de minuscules éclats dans la lame qui sont totalement invisibles à l'œil nu. Ces éclats apparaissent dans la lame au fur et à mesure qu'on l'utilise. Et il était un petit peu intrigué. Il a monté un dispositif avec ses collègues qui permettait de simuler le passage du rasoir sur la peau. Il a ensuite recueilli ses propres cheveux, et puis il a aussi piqué les cheveux de ses collègues, pour avoir un échantillon de cheveux de plusieurs diamètres. Puis il a fait une expérience avec différents paramètres, l'angle de coupe, la direction de la force, la composition de la lame de rasoir, et il a filmé tout ça en microscope électronique à balayage. Mon Dieu, il y a quand même eu du fric derrière dans cette étude, en tout cas une utilisation du matériel. Les trois étudiants, chercheurs, ont donc constaté que dans certaines conditions, un seul cheveu suffit à créer un espèce d'éclat dans la lame. Il y a 3 paramètres qui jouent notamment un rôle essentiel. L'angle de coupe de la lame par rapport au poil, un petit peu la matière qui est utilisée au niveau de l'alliage entre l'acier et le carbone et la présence de micro-fissures à la surface de l'acier. Alors, sur l'angle de coupe, il n'y a pas grand-chose à faire parce que les poils poussent dans toutes les directions, donc c'est difficile d'éviter que l'un d'eux ne percute la lame avec un angle qui ne serait pas favorable. Et sur les 2 autres points, en revanche, serait tout à fait possible de faire des progrès. Et il explique qu'on essaye d'obtenir un matériau aussi dur que possible, mais cette dureté se fait au détriment de l'hétérogénéité qui va créer des micro-fissures qui peuvent s'agrandir. Alors, le processus d'aiguisage qui permet justement de frotter la lame sur une surface rugueuse, ça a également tendance à créer des fragilités dans le cerveau et ces faiblesses structurelles sont amplifiées lors de la coupe des poils. Alors, on ne trouve pas de résultat et c'est un vrai risque parce que c'est ça qui est intéressant. On est sur une étude, ok, un petit peu, anecdotique, on va dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que on se rend compte derrière qu'il y a des grands industriels des lames de rasoir qui se disent attention, parce que si on essaye maintenant de trouver une lame de rasoir qui ne va pas s'user aussi rapidement que celle qui existe sur le marché, ça veut dire qu'on va moins en vendre. Donc effectivement, il y a derrière tout un consortium qui se met en place pour essayer de freiner un petit peu cette recherche. Même si les chercheurs du MIT ont déjà déposé un brevet provisoire sur un procédé qui permet de donner une forme plus homogène à l'acier afin de limiter l'apparition de ces micro-fissures qui sont à l'origine donc de cette usure plus rapide de la lame de rasoir. Mais voilà, c'est intéressant parce que derrière, il y a tout un aspect purement physique et qui permet d'essayer de comprendre un phénomène qui nous agace tous quand on est en train de jeter nos lames de rasoir. Et derrière, eh bien, on se rend compte que finalement, si on essaye de trouver une solution, ça pourrait avoir des impacts économiques aussi qu'il va falloir gérer. Donc, on va voir si dans les prochains mois... peut-être les prochaines années. Hein. Je pense qu'on ne va pas avoir tout de suite un rasoir universel. Mais est-ce que quelqu'un va oser pouvoir sortir ce rasoir universel qui va nous permettre de nous raser sans changer de lame pendant un an, par exemple? Ça va être intéressant de voir si on trouvera cette solution. Peut-être ou pas. Affaire à suivre, bien sûr. On écoute un titre et on continue de développer l'actualité scientifique. Vous écoutez Graphite sur le 94.9 et sur graphite.net.
Avant de se lancer dans un concept album autour d'une ville, vaut mieux rien laisser au hasard. Sinon, on se fourvoie dans du gadget. Alors c'est sûr, t'en vendras des galettes. Mais c'est creux. C'est le néant. Avec une minutie documentaire, tu rentres dans ta ville. Ici, Gontard sur misère. Par la sociologie, par la psychologie. Avec comme point d'appui la presse locale. Ici, le Dauphiné libéré. Quintessence du rien, Poujado crypto-libéral. Pour remplir ma mission, j'individualiserai la ville avec ses quartiers, ses clans, ses ressources économiques et ses notables. Il faudra planter le décor, bien sentir l'anatomie de la ville, battre sous nos doigts, photographier les crises, les enthousiasmes, puis les écroulements et les derniers hivers. Gontard sur misère, ville de 33 000 habitants. Tous les ans, il y a une foire à la con qui bloque la ville pendant une semaine. Jean-Pierre Descombes, Léopold Nord et vous, les trois ducs de la télé-réalité étalent, s'enchaînent les podiums. À la base, cette foire a été créée en 1930, en pleine crise économique pour relancer l'industrie de la chaussure qui se cassait la gueule une première fois. Puis, il y a eu un jour un sauveur libéral. Plus loin, là-bas, ils avaient la Farge et la cimenterie. Ici, c'est Charles Mordant, avec ses pompes de luxe, il s'est bien fait du blé. Il a profité de la création de la cité HLM pour loger tout le monde. Puis il a commencé à licencier. Depuis, dans ma ville, c'est chômage de masse, attrape-couillon, gare TGV, la grande aglo, narco avenue, 2084. Le capitalisme éco-responsable, les prêts toxiques, moins de structures publiques pour un désendettement efficace, selon les affameurs de la Cour des comptes. Ça tente des partenariats avec des villes chinoises de 3 millions d'habitants pour faire rentrer des devises. C'est complètement con ce parrainage. Y'a pas un Pékin en ville. Y'a pas un Pékin. Pas un Pékin en ville. Pour faire une chanson qui rentre dans toutes les maisons. Pour faire une chanson, faut pas lire la fiche Wikipédia de Gontard sur misère. Pour faire une chanson qui rentre dans toutes les maisons. Pour faire une chanson, il faut planter le décor. Je veux planter le décor. Il faut planter le décor, mes amis. Plantons le décor. Plantons tous les décors. Une chanson, planter le décor. Et pas lire la fiche Wikipédia. Planter le décor. Ça rend fou. Planter le décor. Compte les maisons. Il faut pas lire la fiche Wikipédia de Gontard sur misère. Faut planter les décors. Ça rend fou. Ça rend con.
Dans ma ville, c'était Gontard sur l'antenne de Graphite. On va parler au moins de cette bonne nouvelle. C'est la polio qui a été officiellement déclarée éradiquée du continent africain par l'OMS après 4 années consécutives sans cas déclarés et des efforts massifs de vaccination des enfants. Aujourd'hui, les membres de la commission de certification pour la région Afrique déclarent que la transmission du poliovirus sauvage a été interrompue en Afrique. C'est ce qu'a affirmé sa présidente Rose Leek lors d'un événement organisé par visioconférence récemment. C'est un moment historique pour l'Afrique, c'est ce qu'a déclaré la directrice Afrique de l'OMS, Machidiso Moeti. À partir de maintenant, les enfants qui naîtront sur ce continent n'auront pas à craindre d'être infectés par la polio. Alors, il faut normalement attendre 3 ans sans cas déclaré pour obtenir la certification de l'OMS, mais l'ONU a préféré attendre 4 ans cette fois pour être sûr à 100% qu'il n'y a plus de danger, c'est ce qu'explique le médecin. En fait, la poliomyélite, qui est provoquée par ce poliovirus sauvage, c'est une maladie infectieuse aiguë et contagieuse qui touche principalement les enfants, qui attaque la moelle épinière et qui peut provoquer une paralysie irréversible. Elle était endémique partout dans le monde jusqu'à la découverte d'un vaccin dans les années 1950. En 1988, l'OMS dénombrait 350 000 cas à travers le monde et encore plus de 70 000 cas rien qu'en Afrique en 1996. Mais grâce à une prise de conscience collective et à d'importants efforts financiers qu'on estime à 19 milliards de dollars sur 30 ans, seuls deux pays au monde compte aujourd'hui des contaminations par le poliovirus sauvage, l'Afghanistan et le Pakistan. Épicentre de la maladie dans le monde au début des années 2000, le Nigeria, géant africain de 200 millions d'habitants, figure encore à leur côté il y a peu, dans les pays du nord de l'Afrique, sous la pression également des milieux salafistes. Les campagnes de vaccination anti-polio s'étaient arrêtées en 2003 et 2004 parce qu'elles étaient accusées, ces campagnes, par la rumeur, d'être l'outil d'un vaste complot international pour stériliser les musulmans. Donc du coup, ça n'a pas été simple. Il a fallu un énorme travail avec les chefs traditionnels et religieux pour convaincre les populations de faire vacciner leurs enfants. Pourtant, dès 2009, l'émergence du conflit contre Boko Haram a douché un petit peu les espoirs afin de se dire qu'on va pouvoir éradiquer la maladie. Et en 2016, il y a eu quand même 4 nouveaux cas de poliomyélite qui étaient enregistrés dans l'état du Borno au nord-est, qui est un foyer de l'insurrection djihadiste. À l'époque, environ 40 000 enfants étaient hors d'atteinte de toute campagne médicale à cause des violences. C'est ce qu'explique justement le docteur Funcho. La situation sécuritaire reste extrêmement volatile dans le nord-est du Nigeria, dont Boko Haram et le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest contrôlent de larges zones, notamment autour du lac Tchad. Mais les autorités locales, les agences humanitaires et tous les partenaires ont pris le taureau par les cornes pour trouver des solutions pour atteindre ces enfants. C'est ce qu'explique le coordinateur de l'OMS. Aujourd'hui, on estime que seuls 30 000 enfants sont toujours inaccessibles, un chiffre trop faible pour assurer une transmission épidémique selon les experts scientifiques. Malgré son immense fierté et sa joie, le docteur Oudu rappelle qu'une vingtaine d'employés médicaux et de bénévoles ont été tués ces dernières années dans le nord-est du Nigeria. C'est le deuxième virus à être éradiqué du continent depuis la disparition de la variole il y a 40 ans. Alors, autre bonne nouvelle émanant du continent, la République démocratique du Congo a annoncé mardi la fin officielle d'une meurtrière épidémie de rougeole qui a emporté plus de 7000 enfants en 2 ans. Le Togo a annoncé il y a quelques jours être le premier pays africain à avoir définitivement éradiqué de son territoire la THA, c'est ce qu'on appelle la maladie du sommeil. Enfin, des médecins restent cependant inquiets de l'impact de la pandémie du coronavirus sur les activités de surveillance d'autres épidémies. Dans plusieurs pays du continent, les campagnes de vaccination, notamment de la polio, ont été interrompues en raison des restrictions sur les déplacements, évidemment. C'est ce qu'a rappelé l'OMS. Mais l'OMS dit que leur reprise va être effectuée dès que possible. Mais voilà, la polio officiellement éradiquée en Afrique. C'est une nouvelle qui date il y a quelques jours et qui était important de pouvoir évoqué dans cette émission. On écoute un dernier titre et on terminera cette émission avec encore quelques informations scientifiques. Vous voyez, on est parfois un peu anxiogène, mais parfois ça peut être des bonnes nouvelles. C'est ça la science, c'est ça le monde, c'est ça la vie. C'est La Fine Époque qu'on écoute maintenant.
It's us to ecstasy. Typical what he got that you can't find here with me. Typical coming of age when we realize the nice guy who's the race to a turtle. But not even the blue and the purple. Typically, I would've stayed with the L and the dub on the rocks. But swallowing this one's harsher, kinda like I swallowed a rock. Hey, I'm you full of great despair, I gotta tie in a rain spare. Get on my side of the welfare, what's inside be good to me. 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 What's inside, what's inside. Can't do this love, 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 can't get away with a crown when the glove fits. Can't do this love, 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 can't get away with a crown when the glove fits.
C'était sympa, c'est la fine équipe avec Typical Boys sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour faire le point sur l'actualité scientifique. On va terminer avec cet article qui pose la question de savoir si les aliments ultra transformés feraient vieillir plus vite. C'est pas une nouveauté hein, de toute façon, ça fait quand même quelques années, grâce à la théorie de la classification NOVA, que des études se multiplient concernant l'impact de la consommation des aliments ultra transformés sur notre santé. Les résultats d'études, d'observations sont nombreux et même s'ils comportent parfois quelques biais, eh bien, ils vont depuis le départ tous dans le même sens. Il y a trois nouvelles études d'observation publiées récemment qui suggèrent encore le potentiel néfaste d'une consommation trop élevée, trop fréquente d'aliments ultra transformés. C'est une étude espagnole publiée en avril 2020 dans la revue American Journal of Nutrition qui suggère un lien entre la consommation d'aliments ultra transformés d'un côté et le vieillissement de l'autre. En fait, l'étude part de connaissances acquises dans le domaine de la biologie sur les télomères. Alors les télomères, ce sont les extrémités de nos chromosomes, ce sont des petits bouts d'ADN et on considère que ces télomères sont des marqueurs de l'âge biologique. Et quelque part, pour être simple, à essayer d'expliquer d'une façon simple, on considère que plus l'extrémité de ces chromosomes, donc plus la grandeur de ces télomères est importante, plus on est jeune. Et avec le vieillissement, on perd de plus en plus d'extrémités de ces chromosomes. Plus on vieillit, plus on avance dans l'âge, plus les télomères rétrécissent, plus cette extrémité de cet ADN, de ces chromosomes rétrécit. Donc ça permet d'avoir un marqueur de l'âge biologique. Et on va se baser dans cette étude sur justement ce phénomène-là et on se demande si justement cet impact, cette perte de ces télomères, de cette extrémité de nos chromosomes pourrait avoir un impact à cause de facteurs alimentaires. Alors, les chercheurs constatent ainsi que la consommation de ces aliments ultra transformés a explosé ces dernières années dans le monde. Et du coup, on a déjà eu plusieurs études qui ont permis de montrer l'association de ces aliments avec des conséquences néfastes sur notre santé. Les chercheurs ont donc souhaité évaluer l'association entre la consommation de ces aliments et le risque de raccourcissement de ces fameux télomères sur à peu près 800 personnes âgées, hein, parce qu'elles avaient plus de 57 ans. La majorité étaient des hommes et qui vivaient donc en Espagne. et la taille de ces fameux télomères a été mesurée. Alors, on a fait un prélèvement salivaire pour pouvoir récupérer l'ADN. Il y a eu un test PCR. Hein. On sait maintenant ce que c'est qu'un test PCR. On entend parler tous les jours. Et on a également mesuré la consommation de ces aliments ultra transformés qui, cette consommation, a été évaluée avec des questionnaires alimentaires. Comme ça, ça permettait de savoir qu'est-ce qui est mangé et qui est d'avoir un impact également. Alors, ce qui ressort de cette étude, c'est qu'entre les plus petits consommateurs de ces fameux aliments, moins de 2 portions par jour, et les plus gros consommateurs, plus de 3 portions par jour, eh bien, on s'est rendu compte que les plus gros consommateurs ont en moyenne 82% de risque d'avoir des télomères courts. Donc, je rappelle, télomères courts égale vieillissement. Toujours le même problème avec des données d'observation. Est-ce que c'est une cause? Est-ce que c'est une conséquence? Est-ce que c'est les deux? Et puis, étant donné le faible nombre de facteurs de confusion pris en compte, est-ce qu'on peut apporter un crédit à ces résultats? Alors, même constat de départ dans une autre étude publiée cette fois il y a quelques jours, c'était en août 2020, dans la revue BMC Medicine, sur l'augmentation de la consommation de ces fameux aliments ultra transformés et le risque cardiovasculaire associé. Pour aller plus loin, cette équipe espagnole-américaine suédoise, on est dans l'international, ils ont voulu étudier uniquement chez près de 2000 hommes d'âge moyen 40-60 ans le risque clinique qui d'artérosclérose et du coup on s'est rendu compte justement que la consommation d'aliments ultra transformés pouvait également avoir un impact. Alors, les résultats sont moins significatifs, mais on se rend compte quand même qu'il y a une différence entre ceux qui mangent très peu ce genre d'aliments et ceux qui sont quand même des grands consommateurs. Mais il y a quand même toujours une réserve, de même que la première étude, c'est en fait le fait que on n'a pas encore pris en considération tous les autres facteurs, l'âge, la consommation de tabac, les maladies éventuelles, le niveau socio-économique qui pourrait également avoir un impact. Je veux dire que si vous étudiez qu'un seul critère et que vous avez un résultat, ça ne veut pas dire que le résultat est directement lié à ce critère. Ça peut être un autre, mais que vous n'avez pas pris en considération dans l'étude. Donc, on n'est pas encore totalement bien satisfait des résultats de ce qui a été annoncé par ces études. En tout cas, le constat concernant l'augmentation de consommation de ces aliments ultra transformés est le même et va dans un constat d'augmentation toujours croissante de l'obésité. Et donc une troisième étude qui a été mise en place pour essayer de faire un lien entre ces aliments et la survenue de l'obésité. Alors là, les données elles sont quand même plus intéressantes parce qu'elles concernent cette fois 100 000 personnes. Donc c'est déjà un petit peu plus conséquent. Et on a donc essayé de savoir s'il y avait des éléments qui pouvaient montrer une certaine corrélation. Et là encore, l'étude montre une association entre la consommation de ces aliments ultra transformés et le risque de surpoids ou d'obésité également. Alors, conclusion de tout ça et conclusion de ces études qui ont été donc révélées ces derniers jours. Premièrement, on n'a pas encore de conclusion totalement définitive parce que, comme je vous l'ai dit, on n'a pas pris tous les critères et que ces études devraient être approfondies. Deuxièmement, même si ces résultats ne sont pas encore totalement fiables et définitifs, on a des tendances qui montrent quand même qu'il y a des effets néfastes d'une surconsommation de ces aliments ultra transformés. J'ai oublié de le dire dès le départ, les aliments ultra transformés, ce sont ceux qui passent par l'industrie agroalimentaire. Donc voilà, c'est pas du tout des aliments qu'on va manger directement du fait maison, entre guillemets, mais voilà, c'est ceux qui ont subi des transformation dans les industries agroalimentaires. Et donc, du coup, on a des suspicions, on a des tendances, on a des pistes qu'il va falloir approfondir et essayer de confirmer pour essayer aussi de comprendre les raisons qui impliquent une obésité, des maladies cardiovasculaires ou un vieillissement par d'un point de vue télomérique et donc un point de vue d'ADN. C'est des pistes approfondir. On verra ça, bien sûr. On va poursuivre ces études-là. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Il y a quand même, depuis plusieurs années, énormément d'études qui montrent quand même très peu d'effets positifs d'une surconsommation de ce genre d'aliments. Je vais dire, quelque part, on s'en doute un peu, bien évidemment. Mais là, on essaye de confirmer cela et aussi de comprendre un peu les mécanismes qui sont mis en jeu pour comprendre cette corrélation, si celle-ci s'avère évidente. Voilà, c'est terminé. On aura fini avec cette information qui plombe un peu encore l'ambiance. Mais c'est ça, on a touché un petit peu à tout dans cette émission aujourd'hui. Et c'est toujours intéressant, voilà, de voir que la recherche continue et qu'on continue à s'informer, nous, et à vous informer par le biais de cette émission. C'est la fin de Biotine sur l'antenne de Graphite. On se retrouve samedi prochain sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet et sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM. On continuera à feuilleter un petit peu la revue presse de l'actualité scientifique. Encore pas mal d'articles que j'ai là sous les yeux, que je n'ai pas eu le temps d'évoquer avec vous aujourd'hui. Mais on se retrouvera samedi prochain à 12h. Je compte sur vous. Je vous souhaite une bonne journée. Et vous restez bien sûr fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.